Chapitre 9. Un dessin au crayon. Quand les périls sont passés, on les mesure et on les trouve grands. On s'étonne de sa fortune. On pâlit de la peur qu'on aurait pu avoir. On s'applaudit de s'être laissé surprendre à aucune faiblesse. Et l'on sent une sorte d'effroi réfléchi et calculé auquel on n'avait pas songé dans l'action. La poudre fait des prodiges incalculables comme ceux de la foudre. L'explosion avait fait des miracles, non pas de force, mais d'adresse. Elle paraissait avoir mesuré ses coups et choisi son but. Elle avait joué avec nous. Elle nous avait dit « Oh, j'enlèverai celui-ci, mais non ceux-là qui sont auprès ». Elle avait arraché de terre une arcade de pierre de taille et l'avait envoyée tout entière avec sa forme sur le gazon, dans les champs, se coucher comme une ruine noircie par le temps. Elle avait enfoncé 3 bombes à 6 pieds sous terre, broyé des pavés sous des boulets, brisé un canon de bronze par le milieu, jeté dans toutes les chambres, toutes les fenêtres, toutes les portes, enlevé sur tous les toits les volets de la grande poudrière sans un grain de sa poudre. Elle avait roulé 10 grosses bornes de pierre comme les pions d'un échiquier renversé. Elle avait cassé les chaînes de fer qui les liaient comme on casse des fils de soie et en avait tordu les anneaux comme on tord le chanvre. Elle avait labouré sa cour avec les affûts brisés et incrusté dans les pierres les pyramides de boulets et sous le canon le plus prochain de la poudrière détruite, elle avait laissé vivre la poule blanche que nous avions remarquée la veille. Quand cette poule sortit paisiblement avec ses petits, les cris de joie de nos bons soldats l'accueillirent comme une ancienne amie, et ils se mirent à la caresser avec l'insouciance des enfants. Elle tournait en coquetant, en rassemblant ses petits, et portant toujours son aigrette rouge et son collier d'argent. Elle avait l'air d'attendre le maître qui lui donnait à manger, et courait tout affarée entre nos jambes, entourée de ses poussins. En la suivant, nous arrivâmes à quelque chose d'horrible. Au pied de la chapelle étaient couchés la tête et la poitrine du pauvre adjudant, sans corps et sans bras. Le pied que j'avais heurté avec mon pied en arrivant, c'était le sien. Ce malheureux, sans doute, n'avait pas résisté au désir de visiter encore ses barils de poudre et de compter ses obus. Et soit le fer de ses bottes, soit un caillou roulé, quelque chose, quelque mouvement avait tout enflammé. Comme la pierre d'une fronde, sa tête avait été lancée avec sa poitrine sur le mur de l'église à 60 pieds d'élévation, et la poudre dont ce buste effroyable était imprégné avait gravé sa forme en trait durable sur la muraille au pied de laquelle il retomba. Nous le contemplâmes longtemps et personne ne dit un mot de commisération. Peut-être parce que le plaindre eût été se plaindre ou se prendre soi-même en pitié pour avoir couru le même danger. Le chirurgien-major seulement dit « Oh, il n'a pas souffert ». Pour moi, il me semble qu'il souffrait encore. Mais malgré cela, moitié par une curiosité invincible, moitié par bravade d'officier, je le dessinais. Les choses se passent ainsi dans une société d'où la sensibilité est retranchée. C'est un des côtés mauvais du métier des armes que cet excès de force où l'on prétend toujours guinder son caractère. On s'exerce à durcir son cœur, on se cache de la pitié et de peur qu'elle ne ressemble à la faiblesse. On se fait effort pour dissimuler le sentiment divin de la compassion, sans songer qu'à force d'enfermer un bon sentiment, on étouffe le prisonnier. Je me sentis en ce moment très haïssable. Mon jeune cœur était gonflé du chagrin de cette mort, et je continuais pourtant, avec une tranquillité obstinée, le dessein que j'ai conservé, et qui tantôt m'a donné des remords de l'avoir fait, et tantôt m'a rappelé le récit que je viens d'écrire et la vie modeste de ce brave soldat. Cette noble tête n'était plus qu'un objet d'horreur, une sorte de tête de méduse. Sa couleur était celle du marbre noir. les cheveux hérissés, les sourcils relevés vers le haut du front, les yeux fermés, la bouche béante comme jetant un cri. On voyait, sculpté sur ce buste noir, l'épouvante des flammes subitement sorties de terre. On sentait qu'il avait eu le temps de cet effort aussi rapide que la poudre, et peut-être le temps d'une incalculable souffrance. « A-t-il eu le temps de penser à la Providence ?» me dit la voix paisible de Timoléon d'Arc, qui par-dessus mon épaule me regardait dessiner avec un lorgnon. En même temps, un joyeux soldat, frais, rose et blond, se baissa pour prendre à ce tronc enfumé sa cravate de soie noire. « Elle est encore bien bonne, » dit-il. C'était un honnête garçon de ma compagnie, nommé Muguet, qui avait deux chevaux sur le bras, point de scrupule ni de mélancolie, et au demeurant le meilleur fils du monde. Cela rompit nos idées. Un grand fracas de chevaux nous vint enfin distraire. C'était le roi. Louis XVIII venait en calèche remercier sa garde de lui avoir conservé ses vieux soldats et son vieux château. Il considéra longtemps l'étrange lithographie de la muraille. Toutes les troupes étaient en bataille. Il éleva sa voix forte et claire pour demander au chef de bataillon quels officiers ou quels soldats s'étaient distingués. « Tout le monde a fait son devoir, sire, » répondit simplement M. de Fontanges, le plus chevaleresque et le plus aimable officier que j'ai connu, l'homme du monde qui m'a le mieux donné l'idée de ce que pouvait être dans leur manière le duc de Lauzun et le chevalier de Grammont. Là-dessus, au lieu d'une croix d'honneur, le roi ne tira de sa calèche que des rouleaux d'or qu'il donna à distribuer pour les soldats, et traversant Vincennes, sortit par la porte du bois. Les rangs étaient rompus, l'explosion oubliée. Personne ne songea à être mécontent et ne crut avoir mieux mérité qu'un autre. Au fait, c'était un équipage sauvant son navire pour se sauver lui-même, voilà tout. Cependant, j'ai vu depuis de moindres bravoures se faire mieux valoir. Je pensais à la famille du pauvre adjudant, mais j'y pensais seul. En général, quand les princes passent quelque part, ils passent trop vite.